Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, nous fêtons aujourd'hui le saint nom de Jésus. Jésus, comme vous le savez, veut dire « sauveur ». C'est le nom voulu par Dieu le Père lui-même pour son Fils, et qui définit donc le plus essentiellement ce que devait être, ce qu'est le Messie. Sauveur. Qu'est-ce à dire ? Pour mieux le comprendre, voyons d'abord l'état dans lequel le péché originel a plongé l'humanité, puis nous réaliserons mieux ensuite nos devoirs envers notre doux Sauveur. Comme vous le savez, mes frères, nos premiers parents furent créés en état de grâce, avec pour destinée le ciel. Cette fin était surnaturelle, c'est-à-dire au-dessus de notre nature. Dieu voulait, par un don gratuit, nous faire jouir d'un bonheur qui ne nous était pas dû, la vision béatifique. Le Créateur leur accorda aussi une aide surnaturelle, la grâce, qui, comme son adjectif l'indique, n'était pas exigée par notre nature. L'homme devait simplement consentir à ce don gratuit de Dieu. Et, outre cette récompense promise extraordinaire, il faut essayer de le réaliser un peu mieux. Il s'agit rien de moins que de participer au bonheur même de Dieu, de ce qui constitue essentiellement la joie divine. Outre cette récompense et les moyens d'y parvenir, Dieu se plut à enrichir l'homme de beaucoup d'autres dons, là encore totalement gratuits et non exigés par notre nature. Il y avait d'abord les dons préternaturels, qui avaient pour rôle de pallier aux déficiences naturelles. Citons l'immortalité, l'intégrité, l'impassibilité. L'immortalité, l'homme ne devait pas mourir. L'intégrité, l'homme devait avoir la pleine maîtrise de ses passions, de ses appétits. L'impassibilité, l'homme ne devait pas souffrir. Enfin, mais uniquement pour Adam, la science infuse. Cependant, sa descendance, même si elle n'aurait pas joui de la science infuse, n'aurait eu aucune difficulté, aucune peine à étudier. Outre ces dons, Dieu les avait encore placés dans un jardin de délices, poussant sa condescendance d'amour jusqu'à les faire bénéficier déjà de son intimité. Puis, il leur avait laissé le choix. Le payer de retour par leur amour, qui s'exprimait dans leur obéissance, ou bien se rechercher eux-mêmes par orgueil. Vous savez quel choix ont fait nos parents. Les dégâts, nous ne les réaliserons jamais assez, mes frères. Ils furent catastrophiques. Outre la perte de l'état de grâce, qui nous vouait à l'enfer et nous rendait dès ici-bas l'esclave de Satan, l'homme se voyait affligé d'une triple peine quant à son corps, d'une double blessure quant à son âme. D'une triple peine quant à son corps. Effectivement, nous perdions les dons préternaturels. L'homme devenait passible, apte à souffrir, mortel, et il voyait toutes ses passions inférieures, jusque-là parfaitement soumises à la raison, chercher dorénavant chacune son bien propre, de façon désordonnée. Et d'une double blessure quant à son âme. Son intelligence fut enténébrée, sa volonté fut blessée. En bref, toutes nos puissances furent débilitées et par là moins aptes à se porter vers leur objet. L'intelligence eut du mal à atteindre le vrai, la volonté eut du mal à se porter vers le bien. Soit encore, l'humanité en Adam et Ève fut chassée du paradis, assujettie au péché, au démon, à la mort, à l'ignorance, aux mauvaises inclinations et à toutes les autres misères, avant d'aller brûler en enfer. La suite, vous la connaissez. Et verbum caro factum est. Et le Verbe s'est fait chair, afin de mourir sur la croix pour nous sauver. Lorsque nous réalisons vraiment que Dieu n'a en rien besoin de nous, quelle folie d'amour! Comment y répondre? Et quels seront nos devoirs envers notre Sauveur? Nous pouvons les résumer au nombre de deux, la gratitude et l'amour. La gratitude ou reconnaissance va s'exprimer d'une part par l'acceptation du ciel si chèrement reconquis, d'autre part par l'action de grâce, spécialement la louange. Quant à l'amour, elle se nuancera d'une valeur de réparation, spécialement vis-à-vis des blasphèmes. Aujourd'hui, attardons-nous un peu sur notre devoir d'accepter ce salut si chèrement reconquis par notre Sauveur. Par sa mort, et quelle mort, Jésus nous a de nouveau rendu possible l'intimité avec Dieu, de nouveau accessible l'amitié divine, et redonné les moyens surnaturels pour pouvoir atteindre notre fin surnaturelle. Disons-le en un mot, Jésus nous a réouvert les portes de la grâce. Par la grâce sanctifiante obtenue au Saint-Baptême, il nous libère du péché originel et nous rend de nouveau agréables à Dieu. Comment cela? Eh bien, en recevant la grâce sanctifiante, appelée aussi quelquefois grâce habituelle, l'âme est transformée et acquiert une ressemblance toute spéciale avec Dieu, en étant rendue participante de la nature divine. Si nous réalisions davantage ces simples mots, rendue participante de la nature divine, il y aurait de quoi mourir de joie. Nous ne le comprendrons bien qu'au ciel. Mais ce n'est pas tout. Souvenez-vous qu'une des conséquences du péché originel fut d'avoir fragilisé, débilité la nature humaine dans ses puissances. Pour pallier à ce désordre, Jésus nous offre sa grâce actuelle. C'est un secours transitoire par lequel l'homme est mû par Dieu à une opération salutaire. Mais à présent, comme au paradis terrestre, Dieu ne veut pas s'imposer. Il ne veut pas imposer son amour. À nous, comme à Adam, il nous appartient de choisir. Après cette magnificence d'amour que fut la passion, qu'est l'Église et que sont les sacrements, aurons-nous l'audace impie de lui préférer le serpent une nouvelle fois? Mais que nous appartient-il donc de faire? Tout d'abord, demander la grâce. Il faut supplier fréquemment, ardemment Dieu de nous donner sa grâce, par la prière. Le père Louis Sestac, au XIXe siècle, eut une vision où il vit les démons libérés de l'enfer et se précipitant sur le monde. Puis il vit la Sainte Vierge. Et Notre-Dame lui dit qu'en effet, les démons étaient déchaînés dans le monde et que l'heure était venue de la prier comme reine des anges et de lui demander d'envoyer les légions saintes pour combattre et terrasser les puissances de l'enfer. Alors le prêtre lui demanda « Ma mère, vous qui êtes si bonne, ne pourriez-vous pas les envoyer sans qu'on vous le demande ?»« Non, répondit la Sainte Vierge, non. La prière est une condition posée par Dieu lui-même pour l'obtention des grâces. Jésus les a gagnées, Marie est prête à nous les distribuer, mais il faut les demander. Une fois que nous avons obtenu la Sainte Grâce, il faut ne pas y mettre d'obstacle. Il faut l'accepter pleinement, y correspondre, en y coopérant de notre mieux. Prenons un exemple qui nous aidera à mieux comprendre. Celle de la maman qui aide son enfant à marcher. Quand vous voyez une maman qui aide son tout jeune enfant, les premières fois à faire ses premiers pas, eh bien, elle va venir le prendre, le soulever, le soutenir, lui donner l'impulsion. Mais si l'enfant refuse, si l'enfant ne fait pas fonctionner ses jambes, il n'apprendra jamais à marcher. Il ne marchera pas. Il sera peut-être transporté par son père ou sa mère, mais il ne marchera pas. Eh bien, de la même manière, lorsque Dieu nous accorde sa grâce, si nous ne l'acceptons pas, si nous n'y mettons pas d'une autre, eh bien, nous n'avancerons pas vers le ciel. Encore cette comparaison boite-t-elle un peu, comme toute comparaison, car elle ne dit pas assez notre radicale dépendance de la grâce. Dans cette comparaison, la mère reste une aide purement extérieure, tandis que la grâce est une aide intime, intérieure. Elle vient soutenir notre intelligence, notre volonté. Donc, après l'avoir demandé, il faut coopérer à la grâce, l'accepter, ne pas y mettre d'obstacle. Enfin, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir, chacun à sa place, pour que cette grâce se répande à flot pressé. Et notamment, chers fidèles, en priant pour les prêtres, notre Seigneur a voulu faire dépendre essentiellement sa grâce des sacrements. Bien sûr, il est Dieu. Bien sûr, son Sacré-Cœur se déverse avec abondance et sur qui il veut, quand il veut. Mais il a voulu que de manière ordinaire, sa grâce passe par les sacrements. Alors prions. Prions pour que Dieu nous donne de nombreuses vocations. Prions pour que Dieu nous donne de saints prêtres. Encourageons, lorsque nous le savons, les personnes qui ont la vocation. En conclusion, il nous faut méditer souvent sur la grandeur de notre déchéance et sur l'excellence du salut racheté au prix du sang par notre Sauveur, afin de savoir manifester notre gratitude, que ce soit par la louange, comme nous avons déjà vu, par exemple en récitant les litanies du Saint-Nom de Jésus, ou encore par la réparation. À ce propos, vous trouverez à la sortie, sur la table, une petite prière révélée par notre Seigneur à une carmélite de Tours au XIXe siècle, une prière intitulée « La flèche d'or » que notre Seigneur a spécialement donnée pour réparer les blasphèmes. N'oublions pas qu'à la Salette, Notre-Dame a mentionné le blasphème comme une des deux causes qui attirait la colère de son divin Fils. Puisque notre Seigneur nous donne lui-même le remède, sachons l'utiliser. Vous pouvez en prendre autant que vous en désirez et n'hésitez pas à la répandre. Enfin, et surtout, faisons un vrai effort pour correspondre à la grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.